Tous les lundis soirs à 18h10, vous avez rendez-vous avec l'actu sportive, le journal des sports de BPM. Au programme, résultats, invités, interviews téléphoniques et réactions en direct. Une seule fréquence, 102.1. BPM, la radio qui vous donne le rythme du sport partout dans le Mantois. Le journal des sports de BPM.
Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des sports. Aujourd'hui, nous recevons Brice Parinet, arbitre assistant en Ligue 1, président de la commission district de l'arbitrage et vice-président du CSC Lois. Nous reviendrons avec lui sur ses fonctions d'arbitre et de formateur, ainsi que sur les activités de son club. Et puis nous vous livrerons les dernières actus sportives dans la région.
BPM, le journal des sports.
Aujourd'hui, je reçois Brice Parinet, qui est arbitre assistant en Ligue 1 et président de la commission district de l'arbitrage, en plus d'être vice-président du club de foot CSC Lois. Brice Parinet, bonjour.
Bonjour, monsieur Lépine.
Beaucoup de fonctions et donc un emploi du temps très chargé. On commence par parler de votre carrière en tant qu'arbitre assistant en Ligue 1. Comment vous est venue l'idée et l'envie de faire ce métier ?
Bon, au départ, c'est une passion. On joue au football. Il s'avérait que j'étais en parallèle de ma passion pour le foot où je jouais au club du CSC Lois. Il s'avérait que j'étais aussi également arbitre UNSS dans un autre sport, au basket. Et certainement parce que j'étais pas très bon joueur, je suis parti un peu sur le basket. Et il s'avère qu'après, le club m'a contacté parce qu'il cherchait des arbitres, parce que pour le statut de l'arbitrage, c'est-à-dire un règlement sportif, il faut des arbitres pour les clubs en fonction du niveau auquel ils évoluent. Et donc, on m'a proposé de devenir arbitre, et c'est comme ça que j'ai pris le sifflet. Et puis, progressivement, on augmente de niveau, on passe du niveau départemental au niveau régional. Puis, quand on arrive à être en haut du niveau régional, on peut préparer le concours de la fédération, ce que j'ai fait aux alentours de 26 ans. Et puis, ainsi de suite, on monte de division, et c'est comme ça qu'on parvient en Ligue 1.
Et alors, comment on monte de division ?
On est classé, les arbitres sont classés comme les joueurs de foot. Alors il y a le concours pour arriver à la fédération où chaque ligue envoie pour les arbitres assistants un arbitre. L'année où je l'ai passé, donc à l'époque on n'était pas sur 13 régions, il y en avait plus, il me semble que c'était 22, j'ai un doute. On était donc 22 en lice et puis ils en ont pris 2 au final. Et puis après voilà, on intègre le groupe des arbitres assistants fédéraux 3 qui évoluent en national. On est classé, les 6 meilleurs sont montés l'année où moi je suis monté en Ligue 2. Puis on est classé en Ligue 2, ainsi de suite, comme les clubs. Ça m'a pris 3 ans et puis je suis monté l'année dernière en Ligue 1.
Et du coup, par la suite, il y a le prochain palier, Ligue des Champions. Après, vous pourriez tenter ?
Alors, je suis en âge de pouvoir effectivement espérer une carrière au niveau international. Maintenant, ça dépend de tellement de facteurs. Et puis, je viens d'arriver, il y en a d'autres qui sont en lice. Donc, déjà, faire mon trou en Ligue 1, c'est une très bonne chose.
Du coup, ça fait combien de temps là que vous êtes en Ligue 1 ?
C'est ma première année.
Première année, d'accord. Quelles sont les qualités requises pour un arbitre assistant ?
Beaucoup de concentration. Quand on est arbitre assistant, au-delà d'être au service du jeu comme tous les arbitres, on est aussi au service d'un autre homme, l'arbitre central.
Ouais.
Donc il faut assimiler ça, se dire qu'on n'est pas sous les projecteurs directement, on est là pour aider l'arbitre à prendre les meilleures décisions sur la rencontre et à faire en sorte que tout soit sous contrôle, que la rencontre se passe bien. Et une rencontre qui se passe bien, c'est une rencontre où on ne parle pas d'arbitrage, de manière générale. Donc de la concentration, du travail, de la détermination, beaucoup de calme, du sang-froid. Voilà, je pense que ça fait partie des qualités d'un arbitre assistant.
Et est-ce que vous vous projetez à terme d'être arbitre central ?
Non. En fait, quand vous arrivez au niveau régional, au meilleur niveau régional, donc quand vous préparez le concours de la fédération, vous avez 2 concours différents. Le concours pour être arbitre central et le concours pour être arbitre assistant. Moi, pour des raisons d'âge, j'ai fait le choix d'être arbitre assistant. Et je ne le regrette pas aujourd'hui, parce que je ne pense pas avoir été en mesure de pouvoir monter en Ligue 1 ou centre.
Pour le futur, est-ce que c'est quelque chose que vous écartez ou pas ?
Alors en fait, c'est que si jamais aujourd'hui je voulais reprendre le sifflet pour être arbitre central, ouais. Je redescends du niveau régional.
En étant arbitre assistant, est-ce qu'il vous arrive des fois d'être confronté à des situations, on va dire, houleuses suite à une décision d'arbitrage ou c'est plus l'arbitre central qui est concerné ?
Quand vous êtes arbitre assistant, vous payez souvent cash les décisions. Puisque soit il y a enjeu, soit il n'y a pas enjeu. Bien souvent, ça joue à pas grand-chose, parfois à 15 cm. Quand vous laissez partir un attaquant hors-jeu, derrière, il y a à minima une occasion de but, voire un but. L'avantage aujourd'hui avec la VAR, c'est qu'on ne peut plus se tromper, puisque la VAR corrige, c'est binaire l'hors-jeu, il y a ou il n'y a pas. Donc ça a un peu apaisé la difficulté qu'il y avait à gérer cette pression sur la décision. Ce n'est pas le cas encore en Ligue 2, où où il peut arriver qu'on se trompe, et lorsqu'on se trompe, et qu'il y ait derrière, il y a effectivement une conséquence, on est malheureux. Ça, c'est une évidence.
Donc, vous, votre but, vous devez avoir évidemment une très bonne vision, être très réactif par rapport à la situation pour voir s'il y a hors-jeu ou pas. Est-ce qu'il n'y a pas justement la pression également de l'avoir, se dire que ça va se voir tout de suite si on se trompe?
C'est une pression qui est saine, qui nous pousse vers la performance. C'est-à-dire qu'on se dit qu'on ne doit pas se tromper, et donc on mobilise tout ce que l'on peut mobiliser, concentration, placement, activité athlétique, au service de la performance.
Est-ce que vous craignez qu'à terme, la VAR puisse remplacer les arbitres assistants ou pas?
Non, parce qu'en France, il n'y a pas d'arbitrage vidéo. L'arbitrage vidéo n'existe pas. C'est une assistance vidéo. La décision finale revient toujours et systématiquement à l'arbitre central. Donc, ce n'est pas en tout cas dans l'état d'esprit aujourd'hui.
Je le disais, vous êtes également président de la commission district de l'arbitrage. Concrètement, quel est votre rôle?
Concrètement, le rôle, c'est d'organiser et de structurer l'arbitrage yvelinois. 333 arbitres aujourd'hui. Ces arbitres, il faut les désigner pour qu'on ait un maximum de compétitions et de rencontres sportives sur le territoire yvelinois avec des arbitres officiels. Un match se passe toujours mieux avec un arbitre officiel. Ça, c'est une certitude, c'est un gage de neutralité. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte que, un, ces arbitres couvrent les compétitions. Deux, qu'ils soient performants, donc organiser leur formation continue. Et puis, le dernier élément, c'est de développer la culture de l'arbitrage et des lois du jeu au sein du territoire des territoires des Yvelines, de visiter les clubs pour leur apprendre ce que c'est que les lois du football, les comportements propices à un éducateur, et cultiver une culture de l'arbitrage et des lois du jeu.
D'accord, et donc cette culture de l'arbitrage et du jeu, comment vous la résumeriez?
Déjà, c'est une école de l'indulgence. Pendant très longtemps, on a dit que l'arbitre ne se trompait jamais et que l'arbitre avait toujours raison. Ça, c'est vraiment une idée qu'il faut casser aujourd'hui. L'arbitre se trompe, comme tout le monde. L'arbitre, c'est un être humain qui commet des erreurs, et le but, c'est que ces erreurs soient le moins fréquentes possible. Néanmoins, il faut éduquer à la fois les éducateurs, les joueurs, les spectateurs, à cette idée de l'erreur dans une société où l'injustice est de plus en plus mal vécue, où on a un culte de la justice, notamment dans le sport, qui est exacerbé. Et du coup, l'erreur est difficile à accepter. Donc déjà, les éduquer à cette idée-là, que l'arbitre est un être humain et qu'il a le droit de se tromper comme un joueur peut rater une passe ou comme un joueur peut rater un pénalty. Et une fois que cela est déjà transmis, on peut travailler un peu plus en détail sur les lois du jeu, leur expliquer qu'est-ce que c'est que l'enjeu. Beaucoup d'éducateurs, de joueurs, de dirigeants ne maîtrisent pas parfaitement un certain nombre de lois. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer pour éviter qu'il y ait des malentendus sur une rencontre ou qu'il y ait des frustrations, tout simplement.
Et alors, je reviens globalement sur la formation que vous avez suivie, par exemple. Qu'est-ce qu'on vous apprend techniquement, physiquement? Quels sont les exercices qu'on vous fait faire?
Alors, tout ça évolue en fonction des niveaux. Aujourd'hui à la fédération, on est réunis assez régulièrement, au moins tous les deux mois, pour participer à un stage entre arbitres assistants ou arbitres assistants et centraux en Ligue 1. On travaille beaucoup sur la vidéo, bien évidemment, où on harmonise nos décisions. La direction technique de l'arbitrage nous présente des situations et nous donne la posture de la fédération. Et l'objectif est d'harmoniser les décisions sur telle ou telle situation. On a aussi un gros travail athlétique. Un arbitre de la fédération, d'une manière générale, et encore plus dans le secteur professionnel, est un athlète. Donc on a énormément de séances terrain, où on va travailler sur des intensités assez élevées, avec en plus des situations où on sera amené à s'entraîner sur le terrain, avec des décisions à prendre via une vidéo qui serait projetée. Donc le tout est en nous mettre en situation de match le plus possible. Voilà, après il y a aussi tout un travail de réflexion sur des notions de l'arbitrage, sur des thèmes techniques.
On va continuer à parler de formation avec notamment ce que vous faites pour des élèves des Mureaux. Mais avant cela, on fait le point sur les dernières actualités sportives dans la région.
Le journal des sports, les résultats.
Première actu, la campagne Ensemble combattons le silence a été lancée la semaine dernière. Elle a été initiée par l'association Fight for Dignity. Fight for Dignity aide les femmes victimes de violences à se reconstruire à travers le sport, notamment le karaté. 18 athlètes, hommes, femmes, valides et non valides, issus d'horizons sportifs différents, ont répondu présents pour montrer leur engagement contre les violences dans le sport. La campagne Ensemble combattons le silence comporte un guide unique pour aider les témoins aux victimes de violences. Ils y trouveront des conseils, les numéros à appeler en cas d'urgence et des associations pour les aider. Et puis la SOP, semaine olympique et paralympique, se déroule jusqu'à samedi. Le Crêpes Île-de-France organise le relais de cette semaine sur des sites mythiques du sport français. Le thème de la SOP 2021 est le sport santé. Le Crêpes Île-de-France s'engage à soutenir et mettre en lumière la cause du bien vivre avec le diabète. Des activités et des initiations sont proposées aux scolaires franciliens. Il y aura également un temps d'échange autour du thème bien vivre avec le diabète. Une journée se déroulera dans les Yvelines, demain au Vélodrome National de Montigny-le-Bretonneux, puis au Golf National de Guyancourt. Une petite page de pub et on se retrouve pour la seconde partie du Journal des Sports.
BPM, le Journal des Sports.
On entame la seconde partie de votre Journal des Sports, toujours avec Brice Parinet, arbitre assistant en Ligue 1, vice-président du CSC Lois, on y reviendra tout à l'heure. Et vous avez aussi une autre casquette. Déjà, vous êtes professeur d'histoire géo au collège de Jules Verne des Mureaux, c'est ça ?
Tout à fait.
Et donc, vous participez à la formation à l'arbitrage proposée par ce collège, qui est destinée à plusieurs jeunes. Déjà, c'est destiné à tous les jeunes ou il y a une sélection par rapport à des critères particuliers ?
Alors, le projet a démarré avec une classe relais. Une classe relais, ce sont des classes d'élèves déscolarisés, ou d'élèves qui sont intenables en cours, qui sont envoyés donc, dans une structure, la classe relais, où l'objectif est de les raccrocher à l'école. L'idée étant de récupérer des élèves par le biais de l'arbitrage et du foot. Je pense que beaucoup d'élèves et beaucoup de collégiens aiment le football et c'était l'idée, via l'arbitrage, de les raccrocher. Et puis, l'idée a un peu germé et on a décidé de faire une classe arbitrage dans un premier temps, 12 garçons, 12 filles, dont l'objectif est de devenir arbitre. Le projet en soi est de les faire arbitrer, c'est certain, mais surtout de prendre les valeurs du football d'une manière générale et des valeurs de l'arbitrage pour faire de la citoyenneté. Valeurs de justice, valeurs d'impartialité, valeur d'équité, valeur de parité, puisque 12 garçons, 12 filles. Voilà, faire de l'éducation, de la citoyenneté par l'arbitrage. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On a beaucoup de demandes, on a un taux de pression, puisque désormais c'est une section sportive, avec un taux de pression de 2 pour 1. Donc on est obligé de dire non à un certain nombre d'élèves quand on fait les entretiens.
Concernant le format de cette formation, comment ça se déroule ?
Donc c'est une section sportive avec 2 heures hebdomadaires pour nos élèves qui ont une heure en EPS avec le professeur d'EPS, ma collègue Audrey Perru, et puis moi-même sur le temps de l'enseignement moral et civique où je fais de l'arbitrage. Arbitrage en salle avec une dimension théorique où on assimile les lois du jeu via un travail de vidéo, et puis une dimension plus pratique, terrain, où on les fait arbitrer.
Il y a des ateliers dans leur formation, voilà, vous simulez des matchs, c'est ça ? Et
oui, on simule des situations, c'est-à-dire qu'on les fait arbitrer déjà entre eux. Hein. On simule aussi des situations d'un éducateur qui viendrait contester leur décision, comment est-ce qu'il devrait agir. On les fait placer des coups francs, des murs. On leur apprend sur le terrain tout ce qu'ils seront amenés à faire à l'avenir. Tout ça est très structuré, ça vient de la fédération, c'est une formation qui est mise en place par la direction technique de l'arbitrage. Par Alain Sars, ancien arbitre international, qui est le directeur technique de l'arbitrage adjoint, avec Pascal Garibian, qui est le directeur technique. Et tout ça est décliné au sein des ligues, puis au sein des départements. Et donc c'est cette formation-là que nous mettons en place.
Et à la fin, il y a l'obtention du diplôme.
Exactement, qui s'obtient en deux temps. D'abord, un examen théorique pour vérifier qu'ils maîtrisent bien les lois du jeu, puis un examen pratique où ces arbitres vont être évalués sur une rencontre pour vérifier qu'ils sont aptes à arbitrer. Et les plus performants sont désignés pour arbitrer les finales départementales du championnat U13 Critérium, enfin la coupe U13 Critérium du district des Yvelines de football.
Et en parallèle, dans cette formation, ces élèves-là, ils peuvent assister à des matchs de l'équipe de France, c'est ça, pour... C'est ça.
On essaye de les emmener sur plusieurs matchs. Donc, on a eu l'occasion de les emmener voir des matchs au Camp des Loges, à l'époque où l'équipe réserve joue en National 2. On a pu les emmener aussi sur des matchs à Poissy. L'idée de les emmener sur des matchs à Montois est aussi à envisager. Des matchs aux Mureaux, bien évidemment, avec l'OFCM, les Mureaux. Et puis, ils ont bien évidemment, une fois par an, la possibilité d'aller voir une rencontre de l'équipe de France.
Globalement, voilà, on parle de formation. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, de former les nouvelles générations ?
C'est vraiment mon métier, la formation. Quand on est enseignant, on veut transmettre. C'est une tâche que j'ai toujours exercé au sein de la commission de district de l'arbitrage yvelinois. Donc oui, c'est vraiment quelque chose d'essentiel de transmettre et de rendre à l'institution ce que l'institution vous a apporté à un moment donné. On a tous les arbitres ont reçu une formation par des bénévoles, des gens qui vous encadrent, qui vous conseillent, qui vous aident, qui vous poussent à aller le plus haut possible. Et quand on arrive à un certain niveau, il est normal qu'on rende à l'arbitrage que l'arbitrage nous a donné.
Alors Brice Parinet, je le disais en introduction, vous êtes également vice-président du CSC Lois. Déjà une présentation du club, voilà, vous êtes combien au sein du bureau, combien y a-t-il d'adhérents ?
Oui, le CSC Lois, c'est un club qui se développe de plus en plus avec 360 licenciés. Nous étions à 320 licenciés il y a de ça 5 ans, nous sommes 4 personnes dans le bureau. Le président du club, Michael Huot, fait un travail formidable de longue haleine. Il a vraiment remis le club sur de bons rails. Voilà, nous avons un directeur sportif, Jean-Patrick Lot, qui lui aussi œuvre beaucoup à la structuration du club et avec de très beaux projets en perspective.
Vous l'avez dit au début, vous êtes issu du CSC Lois, hein, c'est là que vous avez fait vos classes en tant que joueur, donc c'est vraiment un club, c'est votre club de cœur. Concernant donc le format compétition, où en est le CSC Lois et quels sont ses objectifs pour l'année?
L'objectif, nous, est plutôt de miser sur la jeunesse. On a une équipe de U18 qui évolue en championnat régional R3, qui a gravi les échelons sur ces dernières années, sur les 3 dernières années. On a gagné les 2 dernières finales départementales U18. Donc c'est un gage de qualité au niveau de ce club pour les jeunes, ce qui prouve par ailleurs que le travail qui est fait par les techniciens et par la formation, on en revient toujours à ce point, est essentiel. On a quand même multiplié par 10 le budget de la formation. On est actuellement en train d'essayer d'être labellisé école de foot. Donc tout ça, si vous voulez, fait partie du cœur du projet. On a une équipe senior qui évolue en championnat de district D5. Elle évoluait avant à un bien meilleur niveau. Il y a eu un certain nombre d'incidents il y a quelques années avec des joueurs qui n'avaient visiblement pas compris la philosophie du club. On a pris une décision qui était très forte, qui, je pense, a vraiment montré l'exemple dans ce qu'on devrait faire bien plus souvent sur certaines structures. On a décidé de dissoudre l'équipe senior. Et donc, on a une équipe senior qui reprend en D5 et on s'appuie sur la jeunesse qui vient des compétitions en dessous, sur certains jeunes qu'on arrive à garder malgré le fait qu'ils évoluent en U18 en championnat régional. Donc, voilà, l'idée était vraiment de reconstruire sur des bases saines, y compris en senior. Donc, on peut pas dire qu'on est un club qui soit très compétitif, puisque la vitrine, l'équipe première, est en senior D5, mais on a bon espoir de monter sur les années à venir en s'appuyant sur nos jeunes.
Juste parenthèse, est-ce qu'il vous arrive d'arbitrer les matchs, enfin pas les matchs, mais les entraînements de vos équipes ou pas?
Les matchs amicaux, il m'arrive de les arbitrer. On a aussi organisé en septembre une rencontre contre le Variété Football Club de France, au profit de l'association Les Gazelles. Et donc voilà, c'était l'occasion aussi d'arbitrer pour le club et puis de rendre un peu service.
Ouais, j'allais y venir. Hein. Y a-t-il d'autres actions caritatives hein, de ce genre auxquelles participe le club ?
Alors, c'est cette année, donc on a fait effectivement cette rencontre. Nous faisons tous les ans un tournoi de futsal sur la période d'hiver. Nous envisageons également d'en faire un cet été. Et là aussi, l'idée est de mettre un peu en valeur quelques associations locales.
Alors, 2020 a été marqué donc par la crise sanitaire, avec également plusieurs confinements. Voilà, quel a été l'impact sur le club?
Alors, l'impact premier, il est sur l'aspect convivial d'une structure qui est un club de football. C'est-à-dire qu'on voit moins les gens. Forcément, la raison d'être du club, elle en prend un coup. Très honnêtement, sur le plan financier, on perd une partie des recettes liées au tournoi, mais il y a toute une série de coûts qui disparaissent. C'est-à-dire qu'on ne paye plus d'arbitre pour nos rencontres. On ne paye plus les déplacements pour les matchs. On ne paye plus les amendes pour les cartons jaunes, pour les cartons rouges. Donc, nous, au niveau de la finance du club, on est stabilisé, on n'est pas inquiet. C'est pas le cas de toutes les structures, j'en ai bien conscience, mais en tout cas, au CSC Lois, on n'a pas ce souci-là aujourd'hui.
D'accord. Et sinon, mis à part ça, est-ce qu'il y a des difficultés que le club rencontre? Sans parler forcément de la crise, mais il y a des difficultés qui reviennent
La difficulté est souvent la même, hein, c'est celle de trouver du bénévole, pardon, qui est fréquente et qui est commune à tous les clubs. Aujourd'hui, on est dans une société où l'engagement désintéressé est de plus en plus rare, et tous les clubs, je pense, sont heurtés à ce problème. La chance que l'on a, c'est d'avoir un grand président, en l'occurrence en la personne de Michael Huot, qui a su structurer le club, faire venir des gens au cœur d'un projet pour faire en sorte que voilà, de manière désintéressée, tout se développe et la plus belle récompense que l'on a, c'est de voir les jeunes qui réussissent.
Ah justement, vous êtes vice-président, quel est votre rôle concrètement?
Mon rôle, c'est structurer l'arbitrage, qui est un pôle important dans nos clubs. On a quand même 6 arbitres. Le statut de l'arbitrage nous en impose 3. Nous avons fait le choix d'en avoir 6. Structurer l'arbitrage et structurer les comportements vis-à-vis de l'arbitrage. Faire en sorte qu'on n'ait pas de problème et que les arbitres n'aient pas de problème lorsqu'ils viennent arbitrer au CSLOA. Ça, c'est un point important pour nous.
On parlait tout à l'heure des actions caritatives. Est-ce qu'il y a d'autres événements de loisirs ou festifs qu'organise le CSLOA habituellement, je veux dire?
Événements de loisirs et festifs, bien évidemment, tous les ans, il y a une petite fête qui est faite pour les bénévoles. Hein. C'est un point important, la fête du club. Mais il y a aussi un partenariat intéressant avec la Fédération française du football, puisque le CSLOA fournit tous les ans des équipes pour les arbitres du secteur professionnel. Comme je vous disais, nous, on se réunit en stage régulièrement pour travailler avec les arbitres, les collègues arbitres assistants de Ligue 1. Sur ces stages, nous faisons venir de temps en temps des équipes pour nous faire des exercices de hors-jeu, tout simplement. Et c'est bien souvent l'équipe du CSLOA qui intervient. Très prochainement, il y aura une formation qui sera faite pour former des arbitres à la vidéo. Donc pour cela, il faut faire un tournoi sur site. Et ce tournoi regroupe des équipes et le CSLOA y participera. Donc ça fait partie des partenariats. Donc les joueurs ont la chance d'aller pendant 4 jours à Clairefontaine, logés par la fédération. Là, ils iront très prochainement au Krebs, là aussi logés par la fédération. Donc ça fait partie de... Et ils vont connaître ce que c'est que l'arbitrage vidéo, puisqu'ils seront arbitrés sur un tournoi avec l'arbitrage vidéo. Donc c'est assez intéressant pour eux de le voir.
Et puis, dernière chose, le club du CSLOA a également un partenariat avec l'AC Ajaccio. Alors, quel est le but de ce partenariat?
Ce partenariat a été mis en place par le directeur sportif du club, Jean-Patrick Chelot, et le président, Michael Huot. Et l'objectif est tout simplement d'accueillir les compétitions, enfin pas les compétitions, mais plutôt les matchs amicaux qui permettent aux recruteurs de l'AC Ajaccio de venir voir des jeunes dans le nord de la France, tout simplement.
Merci à vous, Brice Parinet, d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
C'est la fin de ce journal des sports. Vous pourrez le réécouter demain mardi à 12h10. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Très bonne journée à l'écoute des programmes de BPM.
Le journal des sports de BPM.